Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à cette autre édition de Prolongation. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'on est là tous les samedis à compter de 16h et ça jusqu'à 18h. C'est une façon de prolonger la saison de hockey en commentaires et en réaction et en actualité jusqu'à ce que la Ligue nationale obtienne le feu vert pour reprendre leurs activités. D'ailleurs, la réunion des directeurs généraux a peut-être ouvert quelques parenthèses dans ce dossier-là. On va jaser des enjeux avec toi, Danny, dans les minutes qui vont suivre, mais je voulais aborder le sujet des reconstructions. Cette semaine, les Blackhawks de Chicago ont fait le même exercice que les Rangers il y a 2 ans. Ils ont placé une page dans les journaux. Ils ont fait publication d'un communiqué dans les médias sociaux, expliquant que les dernières décisions de l'équipe, soit bien sûr d'échanger Corey, de laisser partir Corey Crawford et d'échanger Brandon Saad, des décisions qui n'ont pas été populaires au sein même de l'équipe, chez les leaders, notamment le capitaine Jonathan Toews, qui a été assez direct dans ses commentaires. Il a exprimé sa déception. Alors on a expliqué aux partisans que vu les circonstances, il était le temps maintenant de se tourner vers les jeunes. Les Blackhawks ont quand même une bonne banque de jeunes joueurs qui sont déjà dans la formation, des joueurs qui n'ont pas des contrats trop élevés, dont la plupart sont sur des contrats d'entrée chez les professionnels encore. Le jeune Kubalik, qui est peut-être pas un jeune, mais qui est un gars là, qui, bien évidemment, va bien servir les Hawks pour plusieurs saisons et qui a signé un contrat à passerelle. Alors, ce que disent les Blackhawks essentiellement, c'est « Soyez patients, mesdames, messieurs, vous allez voir, on va être bon. » Les Rangers ont fait exactement le même exercice il y a 2 ans. Et Danny, forcé d'admettre que les Rangers ont fait un exercice payant parce que ça a duré que 2 ans. La COVID les a ramenés en série, un peu comme le Canadien de Montréal. Mais la signature de Panarin, le fait que Panarin, quand il est allé sur le marché, a dit « ce sera les Rangers et rien d'autre », ça a quand même accéléré le processus. Alors, je ne veux pas enlever le mérite à M. Gorton, le directeur général de l'équipe, puis son groupe d'hommes de hockey. Mais Panarin, c'est un beau raccourci quand tu veux reconstruire.
Ben oui, écoute, ils ont quand même au cœur de la reconstruction Zibanejad. Okay? Oui. Moi, je pense que c'était une acquisition extraordinaire.
Il est encore dans la fin vingtaine, le dernier droit oui. de la vingtaine, lui.
Écoute, les Sénateurs l'ont laissé partir pour Derek Brassard et par la suite, Derek s'est promené tandis que Zibanejad est demeuré là. Je pense que ça, c'est un signe. T'sais, habituellement, là, avec tout le respect que j'ai pour Derek, ça reste un signe. T'sais, le joueur, il y a une transaction, boum, il s'établit, il bouge pas. Autour de lui, on a passé du temps pour essayer de construire autour de lui mettre dans son entourage des joueurs de qualité. Le Panarin est arrivé, Ryan Strome pour un autre trio. Ouais. Ensuite, le repêchage a été quand même très, très... Bouchnevich également. Ouais. Et là, il y a eu le repêchage.
La loterie Lafrenière.
Kako qui est arrivé. Chetil qui était un autre jeune au sein de l'équipe.
Écoute, solide.
En attaque, là, vraiment, c'est une organisation devant le filet aussi. Je pense qu'ils ont fait... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça peut
être facile à faire. Ils ont deux jeunes qui viennent de leur système. Là. Georgiev et Shesterkin viennent du développement des Rangers de New York.
Oui, et Shesterkin, c'est vraiment leur joueur d'avenir devant le filet. Donc, ils ont une belle combinaison là. Ils ont fait une transaction pour Trouba. Fox est une transaction, mais bon, un joueur qui est en plus en fin de... Un joueur de collège américain qui leur fait un travail extraordinaire offensivement.
Lindgren est un très bon prospect, le frère du gardien de but du Canadien.
Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, écoute, il reste que ça passe par la ligne de centre. Je pense qu'à la défense, ils ont certaines interrogations. Ils sont jeunes devant le filet, mais c'est une équipe qui est en devenir, c'est une équipe vraiment d'avenir dans le sens où le talent est là, c'est sûr. Mm-hmm. Ils auront un enjeu à régler avec Strome qui arrive à l'autonomie avec restriction. Qui sera pas un dossier facile à régler.
Non, parce qu'il a les bonnes statistiques, lui, là, on parle de 60 points et plus, là.
Exactement. Et comme bien d'autres joueurs autonomes avec restriction, il veut avoir de l'argent, puis dans le contexte, c'est pas mal difficile.
Danny, quand on regarde un peu les mouvements de personnel, là, ils ont annoncé leur reconstruction, les Rangers, à la fin de la saison 18-19. C'est quand même assez récent. Et depuis cet événement-là, il y a 11 joueurs qui ont quitté l'équipe. Hayes, Zuccarello, Vesey, Namestnikov. On a laissé partir Shattenkirk. Il y a Anderson qui n'est plus là. McQuaid non plus. On a racheté le contrat du roi Henrik Lundqvist. On a laissé partir Spooner. Et on a laissé partir également Neil Pionk. Pour les remplacer, bien sûr, par les joueurs qu'on a nommés tout à l'heure. C'est peut-être pas fini. Les Rangers ont encore pas mal d'argent de disponible, mais ils doivent calculer pour le moyen terme, bien sûr, avec un plafond salarial qui ne bougera pas. Mais Danny, c'est quand même considérable, tu sais. Hayes, Zuccarello, Lundqvist, on parlait à travers ces gars-là de l'identité des Rangers, puis on s'est pas gêné, on les a laissés partir.
Ouais, Martin, on a eu une amorce dans ce sens-là lors de notre dernière émission.
Oui.
Et je sais que ça ébranlait un peu. Il y a des gens qui disaient, voyons, on va pas échanger Price, on va pas échanger Weber. Dans 2-3 ans, là.
Ça, on va arriver là, probablement.
Le Canadien va être à la même place.
Oui. Ils
vont être obligés de dire, bon, on n'a pas gagné avec ces joueurs-là. On a fait un ou deux resets.
Puis, non, mais il y a des gens qui là, t'écoutent dire ça, puis ils vont dire, oui, mais Danny, si on n'a pas gagné.
Oh oui, c'est ça. Puis, mais dans l'éventualité où l'équipe gagne,
oui.
De toute façon...
Et ça va arriver de toute façon. Là.
Et c'est ça, parce que tu dis, une fois que ton joueur vedette a 36 ans, tu gagnes la Coupe Stanley, il a 37 ans, il a 35 ans, les minutes, c'est pas les heures, c'est pas les jours, les minutes sont comptées. Les minutes
exactement.
De jeu, je veux dire. Donc,
on l'a vu à Nashville avec le gardien de but Pécoriné, c'est le meilleur
exactement.
Exemple.
Exactement, très bon exemple.
Les Blackhawks de Chicago, maintenant, sont dans une position un peu semblable que celle des Rangers. Jusqu'à maintenant, avant d'annoncer dans les médias leur reconstruction de cette semaine, là, ils ont laissé partir 5 joueurs. Saad est parti dans une transaction. Crawford est parti sur le marché. Eric Gustafsson également est parti. On a échangé Mata. Et puis, on a également laissé partir Robin Lehner à la date limite des échanges parce que on savait bel et bien qu'on ne le signerait pas à long terme. Là, on va garder Taze. Taze a 32 ans. Son contrat se termine en 23-24. Même chose pour Kane. C'est un gars du même âge. Il a 31 ans. Ça se termine en 23-24. On va probablement être pris avec Duncan Keith jusqu'à ce qu'il accroche ses patins parce qu'il a 37 ans puis le contrat se termine en 23-24. Je vous parle même pas de Seabrook parce qu'il joue plus, il est blessé. Andrew Shaw probablement est à et quelques mois peut-être d'annoncer carrément sa retraite du hockey. Oui. Puis là on a des jeunes. On a des jeunes comme DeBrincat, on a Kirby Dack qui est un très bon joueur, 19 ans seulement. Kubalik, j'en ai parlé tantôt, Nylander à 22 ans. Il y a quand même Strome également qui peut leur faire une bonne transition. Il y a seulement 23 ans. Jan Mark à la défense aussi. Là, Murphy a seulement 27 ans. Bogvist est voué à un très bel avenir à l'âge de 20 ans seulement. Il y a quelque chose à Chicago. On part pas de zéro actuellement. Là.
Non, mais ce qui aiderait Chicago, c'est de finir de très beau au classement.
pour avoir des repères. Ben avec les deux gardiens de but qu'ils ont, là, Delia et Subban, en date du 24 octobre, ça pourrait arriver, Danny, qu'ils soient dans la loterie pour le prochain joueur franchise.
Parce que honnêtement, tu parlais de Taze et de Kane tout à l'heure.
Oui.
Le cœur du succès, c'est Keith, Kane et Taze.
Oui.
Ces gars-là, avec bien sûr Crawford. Ces gars-là ont permis à l'organisation d'avoir de la stabilité pendant plusieurs années.
Et de gagner des coupes, pas seulement une coupe.
Exactement. Coupes. Alors là, maintenant, on se retrouve avec ces joueurs-là qui sont, bon là, Crawford est parti.
Ouais.
Les trois autres qui sont des joueurs vieillissants, pas finis dans le cas des deux attaquants, évidemment. Mais on est déjà en gestion de décroissance. Lorsqu'on arrive, là, on dépasse. Et il pourra pas prendre les mêmes minutes qu'il prenait. Il pourra pas jouer de la même façon qu'il jouait.
Puis là, ils sont malheureux, Danny, en plus.
Et là, ils vont être pognés dans une situation où c'est peut-être eux, à un moment donné, qui vont dire, écoute, là, peut-être c'est le temps pour moi d'aller ailleurs. Et ça, ben, si ça devait arriver, mais là, les Blackhawks finissent très bas au classement. Ils peuvent aller chercher le joueur qu'ils ont besoin, éventuellement un joueur qui va avoir de l'impact et sur qui ils vont pouvoir continuer de bâtir.
Mais et là, ça veut dire que si ça va là, Danny, on s'en va pas pour 2 ans, 3 ans, on s'en va pour 5 ans de reconstruction. Là.
Ben, ça dépend de la qualité des joueurs, parce que des fois, ça va plus vite que prévu. Tu parlais des Rangers tout à l'heure, regarde là, ils vont avoir Lafrenière, ils ont Kako, ils ont Chitil, c'est des jeunes joueurs, puis déjà, ils sont dans une position quand même assez intéressante parce qu'il y avait un noyau là. Alors, c'est différent, mais moi, ce que je veux apporter là-dessus, Martin, c'est que on nous a toujours dit, la direction du Canadien a toujours dit, dans les gros marchés, on peut pas faire ça.
On peut pas utiliser le vocabulaire reconstruction.
On peut pas utiliser le mot reconstruction. Le monde va nous lapider sur la place publique. Ben, ouais. Ironiquement, les gens sont prêts à ça. Les gens, ils comprennent. On est dans un marché de hockey. Les gens comprennent. Ce qu'ils ont de la difficulté à comprendre, c'est que quand tu descends au classement, puis tu repêches, puis ça marche pas. Mmh. Ça, ils ont de la difficulté avec ça.
Ouais, ben c'est sûr.
Mais si tu descends au classement, tu prends les bonnes décisions, puis tu remontes, puis tu regagnes une Coupe Stanley, ou tu te rends loin en finale ou en demi-finale, dans le carré d'as, comme c'est déjà arrivé, mais t'entends pas parler de rien. Alors moi, le terme reconstruction, je pense que le Canadien, après cette espèce de reset qu'on vient de vivre, sera confronté à revisiter cette alternative, dire à notre monde.
Ce sera plus un reset, probablement, là.
Oui, c'est plus qu'un reset. C'est dire, bon, ben là, on va laisser partir certains de nos joueurs clés dans le but de restructurer, de reconstruire avec de nouveaux visages et donner l'équipe à des plus jeunes.
Danny, quand même, tu sais, les Rangers de New York, moi, j'en démords pas. Ils ont pris un raccourci avec Panarin, ça les a aidés, mais on a établi leur stratégie, là. À Toronto, on a utilisé le mot reconstruction. Toronto se cherche encore. Tu sais, ils ont de très bons joueurs, mais on sent que l'identité est pas tout à fait là. Tu sais, Tavares, on sent qu'il y a de très bonnes intentions, mais on dirait que le morceau de casse-tête, là, il y a comme un petit bout de ciel qui fit pas avec le décor, là. Ouais. T'as poussé sur le morceau. Tu sais, la reconstruction des Leafs s'annonçait spectaculaire. Là, l'entraîneur Babcock est parti. Il y a encore beaucoup de talent. Il y a un nouvel entraîneur qui est là. Je ne sais pas s'il va être là longtemps. Puis on dirait que les joueurs clés, là, les morceaux ne s'emboîtent pas nécessairement très bien les uns dans les autres.
Ben, moi, je vais donner mon opinion là-dessus, Martin, rapidement, là, par rapport à Toronto. Là. Toronto et Edmonton, c'est le même combat.
Oui. Deux équipes qui ont reconstruit, là. Ils ont dit à leurs partisans, nous reconstruisons.
C'est ça. Puis, hey, vous allez voir, on va être sensationnel. On va marquer beaucoup de buts.
On va révolutionner le hockey.
C'est ça. Mais c'est pas de défenseur. C'est pas capable de bâtir une équipe juste avec des attaquants. On revient toujours à la même équation. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer juste défensif. Ça, moi, je me poumonne à dire ça, c'est terminé.
De toute façon, les équipes gagnantes ont démontré que ça pouvait pas être ça, Danny.
C'est ça. Il faut que tu sois en mesure de gérer la rondelle, il faut que tu sois capable de l'avoir, la rondelle.
C'est ça.
Pas la garrocher partout, comme ça a déjà été le cas, lancer la rondelle dans le fond du territoire, laisser jouer l'autre, puis jouer le cadran. C'est terminé, ça. Il faut être capable d'avoir la rondelle, de la garder, puis d'attaquer l'adversaire, mais il faut aussi être fiable défensivement. Ce que les Oilers n'ont pas réussi à faire, ce que les Leafs n'ont pas réussi à faire, et ce que le Lightning de Tampa Bay a réussi à faire. Ce que les Blackhawks de Chicago ont construit.
Et ce que les Kings sont en train de faire. Parce que les Kings, c'est pas une équipe des six originales, mais c'est une autre équipe qui a utilisé le mot reconstruction avec ses partisans. Puis, allez pas penser que c'est pas un marché chaud, Los Angeles. C'est un marché chaud. Les gens veulent que l'équipe gagne là-bas, là.
Et juste pour ramener la discussion autour des Rangers.
Ouais.
Tu sais, je te parlais d'Zibanejad. Moi, je pense que le Canadien, c'est un peu la même chose avec Suzuki.
Mm-hmm.
Si le Canadien obtient en Nick Suzuki un joueur de la trempe d'un Zibanejad, qui est capable de devenir.
Un bon parallèle, j'aime ça, moi.
Un premier joueur de centre, là, un peu sous le radar, dit wow, hey, il devient vraiment un joueur de premier plan. Si Nick Suzuki devient ce joueur-là, au moment où le Canadien va laisser partir des joueurs clés, peut-être qu'il n'y aura pas, la secousse ne sera pas si dramatique, tu comprends?
Parce que la transition va se faire avec lui, entre autres.
Exactement.
Peut-être Kotkaniemi.
Exactement.
Et peut-être Romanov.
Exact. Et peut-être Primo devant le filet.
Et peut-être Primo, effectivement. Tu fais bien de le dire. Puis là, l'arrivée d'Allen est tellement importante, Danny, parce qu'on l'a dit. Primo, là, il va jouer pour le Rocket de Laval. Il va se concentrer là. Puis il va progresser là, tranquillement. Puis il va avoir la paix là-bas. C'est pas loin de Montréal, Laval, mais il va être juste assez loin pour avoir la paix. Ça, c'est formidable.
Et je reviens sur deux dossiers importants pour la suite des événements.
Oui.
Caulfield et Poehling. Parce que ça, c'est des choix très tôt du Canadien de Montréal Puis ces gars-là doivent jouer. Parce oui. que sinon...
Et ils doivent jouer un rôle important, Danny, pas juste un rôle de soutien. Là.
C'est exactement. Ils doivent prendre la place des joueurs qu'on va laisser partir, des joueurs clés. Et si ces joueurs-là sont pas en mesure de faire ça, sur les 9 premiers attaquants, puis avoir, dans le cas de Caulfield, évidemment, de devenir un marqueur qui est considéré comme une menace dans la Ligue nationale, ben on va encore se retrouver dans une situation où on va dire... Il manque encore une pièce.
Voilà.
Et puis, on n'a pas l'argent pour y aller parce qu'on a mis l'argent à telle place et telle place.
Exactement. Écoute, tu sais, j'ai parlé des reconstructions des Rangers et des Blackhawks de Chicago, là, mais concrètement, chez le Canadien, 16 joueurs ont quitté Danny depuis l'annonce du reset. J'ai inclus dans l'exercice McCarron, Learnout et Sherbach, qui auraient dû être justement ces fameux prospects qui prennent la place de. Tu sais, ça aurait dû être des gars qui auraient fait en sorte que Marc Bergevin n'aurait pas été obligé d'aller sur le marché des joueurs autonomes ou dans les échanges pour compléter ces fameux trous. Galchenyuk, Pacioretty, Hudon, Plekanec, Andrew Shaw, Jordy Benn, Nicolas Deslauriers, Jacob Delarose, Carl Alzner, Joe Morrow, Mike Riley. J'ai parlé de Sherbach, bien sûr. Les gardiens Niemi et Montoya sont aussi les autres joueurs qui ont quitté. De cette ère pré-reset, là, il reste actuellement chez le Canadien Dano, Gallagher, Drouin, Paul Byron, Arturi Lehkonen, le défenseur Weber, le défenseur Petrie et le gardien Price. Ceux qui sont arrivés après le fameux reset, Tatar, Toffoli, Suzuki, Anderson, Kotkaniemi, Armia, Poehling et Evans, qui sont des gars qui vont lutter pour des postes de 12e et 13e attaquants chez le Canadien. Chiarot, Edmundson, Kulak, Romanov et Ouellet et Mété, qui sont potentiellement 7 et 8 chez les défenseurs. Ça, ce sont les gars, Danny et Jake Allen, qui sont arrivés tous après le reset. Donc, après le reset, là, le Canadien a rentré plus de joueurs dans sa formation régulière qu'il en avait avant le reset.
Ouais, puis et ça nous envoie un message. Moi, je pense qu'il y a, il y a toujours un risque à trop jongler avec son alignement. Mm-hmm. Normalement, tu bâtis l'espèce de structure, puis après ça, tu commences à coller les pièces après une structure qui est solide. Chez le Canadien, on n'a pas été en mesure de bâtir cette structure. Là, on commence à l'avoir. Et c'est important de coller les pièces après cette structure-là. Et c'est la raison pour laquelle les choix de repêchage, intégrer ces joueurs-là dans le noyau dur, c'est si important. Parce que c'est ton noyau dur qui crée ta stabilité. On parlait de Chicago. Hein? Bon, ouais. C'est ces joueurs-là qui viennent faire une différence. Après, les autres, des joueurs interchangeables. Là, tu peux en envoyer un de quatrième trio, en mettre un autre. Un gars, c'est la troisième ligne.
Non, ça, c'est...
Tu sais, les Penguins de Pittsburgh, ils font ça depuis 7-8 ans. Là.
Ces joueurs-là...
C'est compétitif.
Tu sais, au football, Bill Belichick a toujours dit, ces joueurs-là, tu peux échanger à toutes les années.
Oui.
Ces joueurs d'unité spéciale, là, tu peux échanger à chaque année ou à peu près, là, en garder quelques-uns, mais c'est vraiment avec tes joueurs clés que ça se passe. Puis je pense que le football n'est pas si différent du hockey par rapport à des philosophies comme celle-là. Danny, question comme ça, parce que dans mon exercice, j'ai quand même regardé un peu plus large, puis je me suis aperçu qu'entre autres, les Sabres de Buffalo essaient de reconstruire depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont exclus des séries, même avec un joueur assez exceptionnel comme Jack Eichel dans l'équipe. Même avec un gars comme Dallin, on n'est pas capable. Là, on donne ça à un nouveau directeur général parce que, écoute, Danny, la reconstruction des Sabres de Buffalo jusqu'à maintenant a coûté 3 directeurs généraux et a coûté 4 entraîneurs-chefs. C'est énorme.
Tu sais, Martin...
Comme Edmonton, d'ailleurs.
Quand tu fais l'analyse, des équipes, tu commences toujours par les joueurs clés.
Oui.
Puis quand tu regardes les joueurs clés, tu regardes quelle sorte de personne... C'est quelle sorte de leader il est.
Ouais, parce quel genre d'individu.
C'est ça. Et souvent, les équipes qui ont de la difficulté, malgré qu'ils ont des joueurs vedettes dans leur équipe, souvent c'est parce que le joueur vedette, c'est un bon joueur, mais c'est pas un leader. Les bons joueurs se remplacent, les leaders se remplacent difficilement.
Absolument.
Les équipes gagnent pas juste avec des bons joueurs, ils gagnent avec des leaders. Si t'as pas de leader, c'est comme un bateau qui s'en va un peu à dérive. Et il y a beaucoup de clash entre les entraîneurs et le joueur qui a de la difficulté à donner un sens collectif à son effort, à vouloir travailler pour l'équipe. Ça prend du temps. Et les jeunes joueurs vedettes arrivent très rapidement dans la Ligue nationale. Et honnêtement, là, ceux qui sont bons sont super bons. Mais ils sont très individuels. Et ce qu'il faut trouver, c'est l'espèce d'équilibre entre les deux. Parce que tu en as des joueurs. Regarde ce qui se passe avec Lainé, avec, avec Winnipeg. C'est le meilleur exemple. Là. Même affaire avec Eichel. Combien on a nous, là, en allant là-bas? On a-tu entendu des affaires
on à propos? On entend des drôles de choses sur Jack Eichel. C'est peut-être pour ça que, c'est peut-être pour ça que ça prend 10 ans, mon cher Dani. On va s'arrêter pour quelques messages. Et au retour, on va aller sur le marché. On va aller sur le marché des joueurs autonomes avec restriction et sans restriction. Il y a encore des perles qui traînent. Et on va essayer de savoir quel est l'enjeu pour ces joueurs-là et pour les équipes qui devront essentiellement les garder pour la plupart pour pouvoir avancer. Vous écoutez Prolongation, mesdames, messieurs. On est là jusqu'à 18h. Restez là.
Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour en compagnie de Danny Dubé et Martin McGuire. Bien évidemment, Danny, la réunion des directeurs généraux qui s'est déroulée hier, une réunion virtuelle, un peu plus de 2 heures de réunion quand même, c'est pas rien. On a quand même quelques détails à donner à nos auditeurs. D'abord, il y a encore beaucoup trop d'enjeux avec l'éclosion de cas de COVID importants dans certains marchés de la Ligue nationale, dans certains marchés américains, canadiens aussi. On sait que chez nous, là, malheureusement, ça n'a pas lâché. Alors, il y a encore trop de questions dans les airs pour pouvoir avancer quoi que ce soit sur le format que prendra le retour au jeu pour la saison 2021, qui sera peut-être une saison 21 tout court, là, mais pour que les gens comprennent, 2021. Il y a encore beaucoup de choses dans les airs. Au moment où on se parle, Danny, les directeurs généraux ont convenu là que bientôt, on va recommencer des sessions de travail avec le comité exécutif de l'Association des joueurs pour tabler sur ce fameux retour en 2021, le retour au jeu. Même chose, même processus qu'on a fait au cours de l'été quand on a voulu revenir pour les séries. C'est-à-dire qu'on va inclure les joueurs dans la patente, dans les discussions, pour en arriver à un compromis. C'est-à-dire trouver une formule qui va plaire aux joueurs, qui va plaire aux propriétaires, mais c'est encore très tôt pour parler de la division canadienne et tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans les airs actuellement, Danny, c'est clair, là.
Oui, oui. Et puis, mais moi, je m'attends, Martin, à ce que la proposition qui, je sais qu'il y en a plusieurs, là, mais oui, la proposition qui retienne l'attention de tout le monde, c'est celle où on installe, mettons 3 ou 4 équipes pendant un certain temps, faire comme une espèce de mini tournoi, là. Puis ensuite, les équipes retournent chez elles, puis ensuite, c'est une autre place que ça joue, puis comme ça, ben, on est capable d'avoir un calendrier qui roule constamment, tu comprends?
De faire des mini bulles.
Oui, exactement.
Pour que les gens comprennent de faire des mini-bulles.
C'est ça. Puis en satellite, comme ça, tu passes de alors, évidemment, ce que ça implique, c'est que les joueurs acceptent de se déplacer pendant une certaine période de temps, moins longue, évidemment, que durant les séries, mais c'est comme un incontournable, là. Moi, en tout cas, je m'attends à avoir quelque chose, un format qui ressemble ou une formule qui ressemble un peu à ça.
Et la formule canadienne only d'un côté et US only de l'autre côté de la barrière, de la frontière, là, je pense que Danny, ça va devenir un moindre mal peut-être dans l'exercice de tout ça. On a également appris à l'issue de ces réunions-là que le 1er janvier demeure toujours une cible. Ouais. Et ça, je soupçonne qu'il y a du Gary Bettman derrière ça, parce que dès le premier jour au mois de mai, quand M. Bettman s'est présenté pour faire une conférence de presse virtuelle et annoncer qu'il y a un processus de retour qui a été mis en marche avec 24 équipes dans les séries et tout, il a dit « Ah, nous aimerions peut-être, on sait pas, revenir le 1er janvier avec un événement ». Et c'est encore bien vivant, puis moi j'ai l'impression que Gary Bettman, il tient à ça. Il y a cette rumeur là d'aller patiner sur le lac Louise, faire un match là le 1er janvier, un vrai match dehors sur un vrai lac. Alors c'est évidemment là, Gary Bettman, sans mauvais jeu de mots, veut pas que son 1er janvier tombe à l'eau.
Non. Non, il garde l'option sur la glace.
Et ça veut dire, Danny, quand même, que si la Ligue nationale et que visiblement les directeurs généraux ont reçu l'information des hauts dirigeants de la Ligue que le 1er janvier est encore une cible, ce qu'on disait à ces réunions hier, là, ça veut dire, Danny, que il va falloir penser à faire des camps d'entraînement très bientôt, c'est-à-dire au plus tard, la mi-décembre. Et on parle même là que les équipes qui n'auront pas participé aux séries, Ottawa, Détroit, Los Angeles, on parle même de donner à ces équipes-là un 2 semaines de supplément là, au niveau des camps. Ça voudrait dire que le 1er décembre, on s'entraîne là, si on veut jouer le 1er janvier.
Oui, et c'est là où j'ai un petit peu plus de difficultés. Là. Je trouve que... mais c'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est normal qu'on donne des échéanciers très serrés, puis après, on peut les déplacer. Là, c'est pas un problème. On garde l'espoir. On maintient le cap. Mais pour moi, je pense que ça va être quand même assez difficile là, de respecter cette date-là dans les circonstances actuelles.
Ça va être à suivre et ça prend évidemment la collaboration des joueurs. Ça va être intéressant de voir si les joueurs vont collaborer de la même façon qu'ils l'ont fait quand il y a eu le processus estival. On verra bien. Danny,
Martin,
oui.
Il y a aussi les élections américaines qui forcent quand même la Ligue nationale à prendre un certain recul et à regarder la situation en se disant, bon, on va attendre de voir tout ça passer. Là.
Si ça change de couleur à Maison-Blanche, ça pourrait changer de mentalité aussi. Là.
Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place pour permettre justement un retour aux activités de façon un petit peu plus structurée, on va dire ça comme ça.
Danny, il y a des dossiers très chauds dans la Ligue nationale chez les agents libres avec restrictions qui ne sont pas encore réglées. On ne parle jamais de ces dossiers-là. Mais il y a des joueurs franchises là-dedans. Là. Et le premier, c'est Pierre-Luc Dubois. Les Blue Jackets de Columbus ont perdu Panarin. Ils ont perdu beaucoup ces dernières années sans pouvoir gagner. Ils peuvent pas se permettre de laisser aller ce jeune joueur de 22 ans, Danny, qui est déjà le pivot de l'équipe. Cam Atkinson a dit, il est notre joueur franchise. Il a l'étoffe pour prendre l'équipe sur ses épaules, pour être le pivot de notre équipe. Et là, notre ami Dubois doit renégocier son contrat. C'est la fin de son contrat d'entrée chez les professionnels. On parle, là, si on veut l'attacher à long terme, Danny, ça va être difficile de faire ça en bas d'un 6-7 millions, c'est clair.
Oui.
Si on veut l'attacher à long terme.
Je vais quand même peut-être mettre une chose en perspective qui est importante pour les gens qui nous écoutent, c'est que qu'est-ce qui rend la dynamique de négociation aussi complexe actuellement, c'est que les premières années du contrat du joueur, les joueurs savent qu'ils vont perdre de l'argent.
Oui, alors les montants sont reportés plus loin.
Donc, l'argent que tu perds au début, tu veux le revoir à la fin du contrat.
Voilà.
Donc, pour ça, ça prend des contrats qui sont presque optimales au niveau des longueurs et que vraiment le montant est donc plus élevé. Mm-hmm. Et fait que là, il y a beaucoup d'organisations qui sont pas prêtes à faire d'avoir cet engagement-là.
Parce que ça prend des organisations riches, là, Danny. Tu sais, c'est profiter du joueur maintenant, mais payer plus tard.
Exactement. Et tout ça, dans le prolongement de tout ça, les joueurs ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'ils peuvent pas négocier vraiment autrement qu'en faisant un peu la moue, en disant, je vais rester chez nous, parce que même là, ils ont pas le droit, là. Tu sais, il y a pas échange-moi où? Les équipes ont pas beaucoup d'argent.
Non, puis Columbus peut pas échanger Pierre-Luc Dubois là.
Exactement.
Les partisans vont déserter l'aréna. Panarin, ils l'ont digéré là, mais tu peux pas faire ça avec Dubois.
Pas sûr qu'ils l'ont digéré, mais bon, ils ont passé à autre chose.
Ils l'ont avalé. Ils l'ont avalé de travers. Alors, Danny, dans le cas de Dubois là, parce qu'il y a d'autres dossiers là dont je veux te parler, c'est un contrat passerelle ou un contrat à long terme?
Ben moi, je pense qu'on va. Moi, si j'étais à leur place, j'irais vers un contrat plus court en disant, garde, voici le contrat passerelle. Nous, on se reparle dans tant de temps. La situation va être plus claire. On va pouvoir négocier quelque chose qui va être à ton avantage sur une plus longue période. Faisons-nous confiance. Ouais. Voici comment les choses doivent se dérouler. Le contexte est trop instable actuellement pour négocier sur du long terme. Puis, je pense que les joueurs peuvent dans une certaine mesure accepter ça. Surtout les joueurs, un joueur comme Dubois, je pense que lui, c'est un gars qui...
Il peut parier sur lui-même.
Il va jouer de la même façon à tous les soirs. Ouais. Je pense pas que c'est le genre de gars qui veut tabler sur une bonne saison.
Je vais aller plus vite parce qu'il y a d'autres candidats vraiment importants. Oui. Anthony Manta avec les Red Wings de Détroit. Mm-hmm. Lui, il est plus vieux que Dubois, 26 ans, Danny, déjà. Ce qui l'aide pas, c'est les blessures. Les deux dernières années, il a été blessé. Il a joué seulement 43 matchs en 19-20 la dernière saison. Les Red Wings ont pas joué en série. En même temps, les Red Wings sont un peu pris parce que faut que tu mettes du monde dans les gradins à Détroit, puis je pense pas que Steve Yzerman veut se passer vraiment de Manta, parce qu'il l'aurait peut-être échangé. Sauf que là, c'est une négociation qui s'annonce un peu plus dure, parce que Manta va vouloir quand même avoir quelque chose, c'est un bon joueur, mais de l'autre côté de la table, Yzerman va dire, c'est parce que, sais-tu quoi, Anthony, t'as été blessé beaucoup.
Oui, puis encore.
Lui, ça peut être un deuxième contrat passerelle.
Oui. Lui est à 3,3 millions actuellement. Oui. Là, donc, c'est sûr qu'il, dans le cas d'Arizona, c'est mettre ses billes sur la table pour un joueur qui vraiment aura pas beaucoup d'impact à court terme parce que l'équipe est pas assez forte.
Ben voilà.
Et donc, alors, et c'est un joueur qui a été blessé, puis c'est un marqueur. Donc, ton marqueur, t'en as besoin quand t'arrives dans les grosses années, les années où tu te dis, bon là, on a une chance de gagner. Est-ce que ça veut dire qu'Anthony va être sur le marché? Moi, je pense que lui, c'est un joueur qui pourrait changer d'adresse éventuellement.
Ça va être à surveiller. Il y a maintenant des joueurs qui font partie d'équipes gagnantes, des équipes qui sont sur une bonne lancée actuellement, dont les champions de la Coupe Stanley. Sergachev, Cernak, et aussi, bien sûr, le joueur de centre, Anthony Cirelli, sont les cailloux dans le soulier de Julien Brisebois. C'est pas que les gars sont des cailloux comme tels dans le soulier de Brisebois, mais leur dossier est pas facile. Il y a à peine 3 millions pour régler ces dossiers-là. On voudrait bien échanger Johnson, on n'y arrive pas. Là, on va probablement essayer de troquer Killorn, le Québécois. Ça va être plus facile, Danny, parce que Killorn a un contrat un peu moins lourd, puis c'est un gars qui peut jouer, comme tu disais, dans le cas d'Anderson à Montréal et de Toffoli, là. Il peut jouer du hockey défensif, puis il peut jouer du hockey offensif. Mais là, Julien Brisebois peut pas avancer ben ben loin sans Sergachev, sans Cirelli et sans Cernak.
Non, et c'est sûr que la défense, c'est des priorités. Cirelli, c'est vraiment un joueur qui est comme un peu Philippe Dano, là, c'est un joueur qui est très complet. Ils ont besoin de ce joueur-là. Il est vraiment très, très important. Ils peuvent se passer de Killorn, même si c'est un bon joueur. C'est 4,5 millions, là, 4,45,
ouais.
qu'on peut délester. On a eu des rumeurs autour de Stamkos. C'est pas, ouais. C'est normal.
Mais il veut pas lever sa clause là,
non,
pour l'instant.
Pour l'instant, mais c'est normal. Alors, on est dans cette situation-là. Il peut y avoir des plus petits salaires qui soient délestés parce que le joueur va aller jouer dans la ligue. Bon, ils n'ont pas beaucoup de petits salaires, mettons.
Non, c'est juste des gros salaires.
Pour faire de la place à court terme, on pourrait envoyer un joueur dans les rangs mineurs. Là,
si alors, Danny, outre les gars du Lightning, là, il reste Reinhart à Buffalo, il reste Matt Barzal avec les Islanders de New York et le gardien de but, Mackenzie Blackwood.
C'est pas un petit dossier, là.
Non, puis Ryan Strome avec les Rangers, on a parlé de lui tantôt. Danny, ces gars-là peuvent tous, potentiellement, recevoir des offres hostiles en 10 secondes avant de parler des bagarres et non. de la loi de Ciccone. Est-ce qu'un de ces gars-là pourrait recevoir une offre hostile?
Martin, dans les circonstances, je dis c'est pratiquement impossible que ces gars-là reçoivent une offre hostile pour une raison très simple. Les choix au repêchage pour les prochaines années, à cause de la situation financière des équipes, ça devient impératif, un, de les avoir, puis deux, de bien repêcher.
Dossier clos maintenant. Voici le commentaire de Danny et ça nous amène à parler de ce projet de loi proposé par Enrico Ciccone, qui est maintenant député et qui fait une sacrée bonne job. Hein. Outre les couleurs de politique, là, Enrico est très engagé dans son travail de député, puis je voulais simplement lui lever mon chapeau. C'est pas facile de faire la transition sport, médias et politique, puis lui, il l'a fait très bien. On va l'écouter alors qu'il était l'invité de Bernard Drinville cette semaine, présenter l'esprit de la loi, et je veux t'entendre là-dessus, Danny.
Ben écoute, c'est une loi modifiant la loi dans la sécurité, dans les sports, afin d'interdire, puis là, je vais lire, vous savez comment ça fonctionne, là, l'introduction, interdire les batailles dans les activités sportives auxquelles des personnes de moins de 18 ans y participent. Puis là, j'ai utilisé le mot « bataille », parce qu'il y en a qui m'ont dit « mais pourquoi t'as pas écrit « bagarre » ? » Parce que j'ai utilisé exactement le même verbatim que dans le livre des règlements de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Mais ça s'adresse vraiment ici, là, avec le sport qui nous concerne, où il y a encore des bagarres à main nue chez des joueurs mineurs, notamment, c'est le hockey dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Les parents vont confier leurs enfants, les choses qu'ils aiment le plus, à une tierce personne, à une ligue, puis là, on leur dit « prenez soin de mon enfant », mais en même temps, dans la ligue qu'on les confie, on accepte encore qu'il y ait des bagarres à point nu. La régie de l'alcool, des courses et des jeux, là, M. Drinville, là, n'accepterait jamais aujourd'hui de donner une licence à un événement où il y a des bagarres à point nu, puis nous, encore aujourd'hui, en 2020, là, on l'accepte avec des jeunes à 15, 16, 17 ans dans nos ligues juniors. C'est inacceptable.
Danny?
Ben écoute, le hockey doit permettre aux jeunes d'aller à l'école. C'est très important. Et le hockey doit permettre une éducation et un développement à long terme, c'est-à-dire un développement personnel, apprendre à se découvrir comme personne, apprendre à travailler en équipe, que tout ce que tu apprends dans le sport, tu dois être capable de le transférer dans ta vie de tous les jours, parce qu'un jour, tu vas arrêter de jouer au hockey, ou tu vas arrêter d'être un athlète, que ce soit professionnel ou olympien.
Et pour un pourcentage important, Danny, il faut mentionner que ça va être beaucoup le cas de beaucoup de ces joueurs-là. Oui, ils vont arrêter vite d'être des joueurs de hockey.
Exactement. Et ce que la dernière chose qu'on veut voir, c'est quelqu'un qui termine une carrière professionnelle puis qui est perdu, qui va sombrer dans la drogue, l'alcool ou tout autre problème de comportement parce que justement, il n'a pas appris à travers son cheminement sportif ce que c'est la vie et comment faire face à l'adversité autre que sur la patinoire. Que nos enfants soient en sécurité, parce que ce qui se passe dans la cour d'école et ce qui se passe sur la patinoire, ça devrait être un peu la même chose. Quand tes enfants sont pas en sécurité dans un endroit dans la société, les parents réagissent. Ça devrait être la même chose. Les ligues, les équipes, les organisations doivent s'assurer de garder leurs jeunes, leurs anciens après leur passage. Pour ça, il faut que le passage soit positif. On veut que nos jeunes aient une expérience positive puis qu'à la suite de ce parcours sportif, qu'ils deviennent des ambassadeurs pour nos équipes, pour nos ligues, qu'ils deviennent des porte-parole, qu'ils deviennent ceux qui un jour reviennent parler aux jeunes qui font partie du même réseau de compétition, qui disent à quel point ça a été bon pour eux, qu'ils témoignent de leur cheminement et de leur apprentissage. Mais pour tout ça, il faut que l'expérience soit positive. Puis habituellement, une expérience positive, tu manges pas de coups de poing dans le visage quand l'expérience est positive.
Et bonne conclusion, Danny. Puis rapidement, j'y vais avec des chiffres. Là. En 93-94, il y avait 2,4 bagarres par match dans la Q, comme on l'appelle, dans notre ligue au Québec. Et lors de la saison qui s'est terminée en mars, là, avec le début des séries, il y avait 0,24 bagarres par match. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Mais quand même, une loi qu'on ne pourrait pas appliquer dans les Maritimes où il y a des clubs de la LHJMQ, ça pourrait être compliqué, mais une loi pourrait donner le ton. Danny, merci infiniment. On va s'arrêter pour quelques messages et au retour, comme tu le sais, comme à tous les semaines, ça se termine avec les tirs de barrage. On est en fusillade! Quand il n'y a pas de maître en prolongation, on s'en va tout simplement en fusillade. Alors, Danny, je te demanderai de placer ton masque et d'attacher tes jambières. C'est parti! Chez le Canadien, Claude Julien entamera une année cruciale en raison des ajouts qui ont été faits par le directeur général Marc Bergevin. S'agit-il d'une année où Claude Julien devra performer? Est-ce que Claude Julien va passer à travers les attentes et cette saison, Danny?
Oui, il va passer à travers une équipe qui lui ressemble beaucoup plus et moi je pense que c'est la mission, c'est de participer aux séries et de franchir la première ronde avec succès, pardon.
À la réunion des directeurs généraux vendredi après-midi, il a été question de la date du 1er janvier. La Ligue nationale cible toujours un retour en janvier au jour de l'an pour créer un événement spécial. Est-ce qu'ils doivent, Danny, s'y accrocher à tout prix?
Oui, ils doivent s'y accrocher à tout prix. C'est pas parce que la Ligue entreprend avec un match spectaculaire que les activités de la Ligue vont nécessairement partir cette journée-là. Je pense que la Ligue pourrait avoir un événement, puis 10 jours plus tard, on pourra avoir le début de la saison.
Parmi les agents libres sans restriction, il y a des candidats qui sont sans emploi actuellement. Ola, Hoffman et Corey Perry semblent les candidats les plus intéressants. Lequel, Danny, serait ton choix? Qualité-prix?
Eric Ola, pour moi, c'est un joueur qui, dans les trois, c'est lui qui va coûter le moins cher. Puis c'est le joueur qui, pour moi, amène la dimension la plus importante, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans toutes les facettes de jeu, beaucoup plus qu'Hoffman, malgré son incroyable habileté à marquer des buts en avantage numérique.
Le gouvernement formé par la CAQ et bien sûr la ministre des Sports Isabelle Charest doit embarquer dans le projet Chicone pour que la fameuse loi empêchant les bagarres dont on a parlé il y a quelques minutes à peine, puisse passer. La ministre Charest s'est montrée un peu tiède, disant que ça doit venir d'abord et avant tout du milieu et que le milieu avait cheminé. Est-ce que la CAQ, ultimement, va collaborer? Est-ce que le projet de loi Chicone va passer?
Je pense pas. Je pense que malheureusement, la CAQ a déjà entrepris des discussions avec la Ligue junior majeure du Québec. Alors, on voit que les réticences, ça vient pas du Québec, ça vient des Maritimes et qu'ils sont un peu coincés dans tout ça. Alors, avant d'en arriver à voter positivement pour cette motion, je pense qu'il va encore couler de l'eau sous les ponts. Mais ultimement, c'est quelque chose qui va se produire.
On a parlé des reconstructions tout à l'heure, Danny. Laquelle de ces équipes y arrivera ou arrivera au succès le plus rapidement? Est-ce que c'est New York qui a commencé depuis 2 ans? Est-ce que c'est Montréal qui a commencé depuis 2 ans? Est-ce que c'est Chicago qui commence maintenant? Ou est-ce que c'est Los Angeles qui a commencé sa reconstruction depuis 3 ans maintenant?
Parmi les équipes que tu as mentionnées, le Canadien de Montréal est nettement en avance sur les autres. Mais le Canadien devra gagner vite parce que les autres équipes que tu as mentionnées, dont les Rangers, vont être meilleures dans un assez court laps de temps.
Aujourd'hui, 24 octobre, il n'y a pas l'ombre de négociation ou de pourparlers concrets, semble-t-il, entre le camp Philippe Dano et le Canadien de Montréal. Est-ce que Philippe Dano doit se préparer, Danny, mentalement, à jouer sa dernière année de contrat? Il reste encore du temps, mais visiblement, les deux parties, au moment où on se parle, sont campées sur leur position. Comment tu vois la suite?
Ben, ce que je vois, c'est que Philippe Dano entreprenne sa dernière année de contrat sans avoir une entente avec le Canadien et qu'il connaisse la meilleure saison de sa carrière. Je pense que c'est la seule chose qui lui reste.
Merci, Danny. Merci infiniment. T'as été parfait encore avec la fusillade cette semaine. C'est déjà tout, mesdames, messieurs, pour l'émission Prolongation. Je vous convie à notre prochain rendez-vous, la semaine prochaine, bien sûr, samedi, 16h. On aura, bien sûr, un peu plus de détails sur les plans de la Ligue nationale parce que la réunion des directeurs généraux de vendredi après-midi a laissé sous-entendre que dans les jours ou dans les semaines qui viendront, le comité de travail avec les joueurs d'un côté et les propriétaires de l'autre. Ce comité, Danny, qui a eu beaucoup de succès pour conclure au retour et des séries estivales qu'on a connues, va tenter d'avoir autant de succès et de s'entendre d'aussi belle façon pour retourner au hockey le 1er janvier. Alors ça, c'est un autre dossier à suivre. Ça va certainement évoluer au cours de la prochaine semaine, Danny.
Ouais, l'important, c'est que les joueurs soient dans le processus, qu'il y ait des bonnes discussions, que ce soit ouvert, qu'on ait l'esprit ouvert pour être créatif et trouver une façon de relancer les activités.
Et bien évidemment, du côté du Canadien, les choses semblent assez réglées, mais on sait jamais. Il y a quand même Armia, Tatar, qui sont des joueurs qui, potentiellement, pourraient entamer leur dernière année de contrat. On l'a dit durant cette émission-là, rapidement, Danny, il n'est pas impossible que Marc Bergevin ait complètement terminé ses affaires. Il peut avoir un coup de téléphone de dernière minute.
Absolument. Il peut avoir du mouvement personnel pour les raisons qu'on a mentionnées. Et il va chercher à aller amener de la stabilité dans son alignement pour les prochaines années.
Je vous invite, mesdames, messieurs, à suivre nos émissions de sport toute la semaine. Mario Langlois en direct touche la scène du sport et notre ami Jérémy Rainville du lundi au vendredi à Bonsoir les sportifs dès 21h. Au nom de Danny Dubé, ici Martin McGuire qui vous souhaite de passer une bonne semaine. À samedi prochain pour un autre Prolongation.